Je voudrais commencer par une citation d'un rapport d'inspection qui date de 1943. Il est certain que les jeux de nos garçons, surtout de ceux de 5 à 6 ans, sont placés sous le signe de la guerre. Ils sont devenus bombardiers, sans pour cela négliger le corps à corps, et l'on entend souvent dire « Viens ici qu'on se bagarre ». Et tandis qu'on rétablit la paix en un coin, un groupe se cache en tirailleur derrière un tas de fagots placés là à souhait. Un autre groupe transporte les blessés, puis ce sont les mouchoirs si vite pliés, en forme de triangle, simulant les revolvers, et les avions ronflent, les mitrailleuses crépitent. Donc c'est un témoignage qui est extrait du rapport d'une institutrice qui relate à l'inspection donc, d'Académie de Marseille ce qu'elle observe dans la cour de récréation au cours de l'année 1943. Et à n'en pas douter, la guerre a eu un impact notoire sur les pratiques ludiques des enfants. Non seulement elle ne les a pas empêchés, de jouer, mais bien plus elle a transformé et nourri leur jeu. Donc à l'évidence, il est possible de continuer à rire, à jouer lorsque l'on est un enfant, même en temps de guerre. En fait, cela n'a rien d'étonnant, puisque comme rappelle plutôt l'historien Nicolas Stargardt, je cite « Jouer est aussi naturel pour les enfants que parler pour les adultes ». C'est un moyen en effet d'expression, d'appréhension, voire d'acceptation des réalités qui les entourent, bien plus qu'une simple distraction. Donc les pratiques ludiques constituent en cela un objet d'étude particulièrement riche pour les historiens, qui peuvent y lire les expériences que les enfants font d'un phénomène tel que la guerre. Mais comment et jusqu'à quel point est-il possible de jouer en temps de guerre totale, c'est-à-dire à un moment où les enfants sont aussi victimes que les soldats de la violence qui en résulte? Pour rappel, c'est au cours de la Première Guerre mondiale que les enfants sont devenus des acteurs à part entière des conflits. Ils ont été à la fois mobilisés donc par les discours, la propagande, via les marrainages de soldats, leur participation à des ramassages en tout genre, aux confections de colis pour les soldats, mais aussi touchés plus directement par les bombardements, les combats, notamment à proximité des zones d'affrontement. Mais en fait, c'est surtout lors de la Seconde Guerre mondiale que l'intégration des enfants au phénomène guerrier a pris un caractère total, puisque partout, ils sont devenus des cibles privilégiées, les menant pour certains, comme vous le savez, jusqu'au camp et au four crématoire. Donc cette communication a pour but d'analyser l'impact de la guerre sur les pratiques ludiques des enfants en Europe de l'Ouest, alors plus particulièrement en France, en Allemagne et en Italie. C'est le terrain que j'étudie pour ma thèse. En partant de sources relativement variées, telles que des jouets, des témoignages oraux ou écrits, des articles de presse locale, des archives, des sources ministérielles, des rapports d'inspection. L'idée était de se demander, dans un premier temps, dans quelle mesure le conflit et les formes de violence qui en découlèrent ont pu représenter une source d'inspiration pour les plus jeunes, mais aussi pour les fabricants qui ont proposé tout au long des années 1940 de nouveaux jouets. Ça, c'est pour un premier temps. Et dans un deuxième temps, je voulais interroger les limites des pratiques ludiques, tant du point de vue des enfants, donc jusqu'à quel point est-il possible de jouer en contexte violent? Quand est-ce que la guerre devient un frein pour le jeu? Mais aussi du point de vue des adultes, puisque pour ces derniers, beaucoup d'experts de l'enfance ont dénoncé notamment le danger moral que pouvaient représenter les jeux de guerre. Et plus généralement, ce sera aussi l'occasion de réfléchir à quelles conclusions il est possible de tirer sur les pratiques ludiques dans des contextes violents. Alors, donc, dans un premier temps, dans quelle mesure donc, la guerre est une source d'inspiration pour les enfants? On peut se demander effectivement si la guerre empêche de jouer. A priori, non, puisque dès les premiers jours du conflit, notamment en France, mais aussi en Allemagne ou en Italie, elle intrigue et elle attire les plus jeunes. Ils sont nombreux, effectivement, en Europe de l'Ouest, à suivre dès les premiers mois de septembre 1939 l'évolution des différentes troupes alliées, en plantant notamment donc, des petits drapeaux sur des cartes, en reproduisant les troupes, les chars, les tanks des différentes armées. Et c'est aussi l'occasion pour eux d'apprendre de nouveaux noms, de pays, de villes, et de découvrir, entre autres, l'Europe de l'Est. Ici, vous avez un extrait notamment de Jean-Louis Besson, donc, d'un de ses ouvrages. Il avait 7 ans et il était chez ses cousins lorsque la guerre a éclaté en septembre 1939. Et dans le grenier, ils ont emménagé avec ses cousins ensemble sur une table de ping-pong une grande carte avec posée dessus des figurines fabriquées en bois peint, comme il l'explique dans ses souvenirs. Donc, je vous laisserai le lire, mais on constate que la guerre en fait est loin d'effrayer les enfants, même quand le père est sur le front ou lorsqu'il est fait prisonnier. Tout au long du conflit, en fait, les petits Européens ont trouvé dans la guerre une source d'inspiration puissante. Ils se fabriquent de nouveaux jouets, souvent avec les moyens du bord. Une branche de bois ou un morceau de métal deviennent une mitrailleuse. Donc, dans le cas ici, c'est une source assez exceptionnelle parce que c'est très difficile de trouver des jouets fabriqués par les enfants. Ici, c'est un char et un camion alliés qui ont été conservés au mémorial de Caen. Et donc, vous pouvez voir ici que de simples morceaux de bois et de simples clous peuvent permettre de fabriquer un char allié en 1944. Les munitions trouvées par terre à la fin du conflit et les éclats d'obus lors des bombardements font quant à eux l'objet de collections et de compétitions de troc dans la cour de récréation. Ils sont réutilisés, de même que les masques à gaz. Donc là, c'est à nouveau des jouets qui ont été fabriqués avec les filtres de masques à gaz allemands qui ont permis de créer, donc sur l'image du bas, un yo-yo et sur l'image au-dessus, un jeu d'avion. Au fur et à mesure aussi de la guerre, ce qu'on observe, c'est que au fur et à mesure des années, elle est de plus en plus présente dans les jeux des enfants. Les formes de violence qui la caractérisent sont reproduites. Par exemple, en 1943, dans le rapport d'inspection que je citais, l'institutrice observe que « qui veut jouer à papa-maman » est devenu « qui veut jouer au bombardement ». Les écoliers et les écolières s'inspirent effectivement de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils voient. Et en France, toujours dans ce rapport qui est assez dense, hein, il fait plus d'une cinquantaine de pages, l'occupation est clairement une source d'inspiration, puisque l'institutrice écrit sur le terrain du sport « Un jour où les Allemands se livraient à des exercices d'attaque, les garçons organisèrent immédiatement les mêmes exercices, ils partaient à l'assaut, se jetaient brusquement à plat ventre dans les broussailles, avançaient en rampant et défilaient ensuite devant leur chef. » Ici, il convient néanmoins de rappeler que, et vous le sentez peut-être déjà, les jeux demeurent très genrés, puisque ceux des garçons sont principalement le reflet des acteurs masculins du conflit. Ils jouent à l'aviateur, aux tirailleurs, aux arrestations, alors que les filles, elles, se cantonnent soit à des jeux sanitaires, donc elles jouent à l'infirmière, ou alimentaires. On joue au marché noir, à faire la queue lorsque le quotidien devient de plus en plus difficile du fait du rationnement et des pénuries. Le deuil aussi fait parfois son apparition. Au-delà du quotidien et de ce que les enfants peuvent voir, on constate également que les jeux sont stimulés par une offre de jouets proposée par les fabricants, mais aussi les autorités. Alors les catalogues de jouets que j'ai pu consulter pour les années de guerre, notamment ceux du bon marché, proposent effectivement pléthore de jouets qui font une référence immédiate à l'actualité. Dès 1939, il est possible de jouer avec des avions, dont on a choisi au préalable la cocarde, qu'elle soit française, anglaise ou nazie. Au cours du conflit, beaucoup de jouets apparaissent, à l'image par exemple du jeu l'aéronaval en 1939, la colonne blindée ou le jeu des cargos en 1943. Et ils font tous référence à différents aspects de la guerre et du combat. On joue à se battre sur terre, sur mer et dans les airs. Il y a aussi beaucoup de plateaux de jeux qui font revivre des grandes batailles, comme le jeu le bombardement de la ligne Siegfried. Et à la Libération, on retrouve le jeu donc dès 1944, le jeu du débarquement, le jeu de l'évadé, qui sont vendus dans les grands magasins. Grâce aux panoplies que l'on peut se procurer dans les grands magasins toujours, les garçons peuvent jouer aussi à la guerre en s'improvisant soldats, officiers, quand les petites filles, jouent à être infirmières de guerre. Et lorsque ces jouets sont trop onéreux, on peut se rabattre sur de nombreuses planches à découper qui permettent de fabriquer des tanks, des avions ou, c'est le cas ici, faire revivre les combats des maquisards ou des FFI. Alors le caractère autoritaire ou totalitaire des régimes vichistes, fascistes et nazis favorise également la pénétration de la guerre et de sa violence dans les jeux des plus jeunes, plus particulièrement des jeunes garçons. En premier lieu, vous devez vous en douter, les mouvements de jeunesse, qu'il s'agisse des Hitlerjugend en Allemagne ou de son pendant italien, les Balilla, proposer aux enfants à la fois donc des armes factices, ici c'est une reproduction d'une arme de la Première Guerre mondiale, qui sont largement diffusées, mais aussi des panoplies. Alors là, ce ne sont pas des adolescents, donc ce n'est pas un entraînement militaire, ce à quoi sont destinés les adolescents, mais on voit bien que on intègre l'aspect militaire dans les jeux des enfants. Et les cours d'histoire à l'école étaient aussi l'occasion de mettre en avant les grandes batailles, de même que les outils de propagande, comme les journaux pour enfants, qui proposaient, donc il y en a beaucoup, hein, notamment des journaux français comme Fanfan la Tulipe, qui proposaient des mots croisés, des devinettes dans lesquelles il faut trouver des mots comme bombe, donc qui contribuent à créer un imaginaire guerrier, attractif, mais aussi violent. Et donc, en période de guerre totale, la mobilisation du front arrière, et plus particulièrement de l'enfance, a plongé cette dernière dans un monde belliqueux, ce qui a orienté largement ses jouets. Et qu'ils aient été incités donc, à le faire ou inspirés dans leur quotidien, le contexte violent qu'est la guerre n'a, c'est le premier constat à avoir, pas empêché les enfants de jouer. Pourtant, la question qui me paraît importante est de savoir si on peut réellement jouer de tout, tout le temps, et y compris lors d'expériences extrêmes comme les bombardements intensifs ou dans le cas notamment des enfants juifs de la déportation. Et ce qui m'intéressait, c'était de poser la question des limites du jeu en contexte violent. Alors à première vue, il est effectivement possible de jouer en toutes circonstances, y compris dans des cas extrêmes. Là, je vous ai mis un extrait d'un journal intime d'un jeune Italien qui a alors 10 ans. Et à la date du 28 juin, en fait, ça fait plusieurs fois qu'il relate depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les différentes incursions aériennes ennemies au-dessus de son village, qu'il a dû quitter d'ailleurs. Il explique et il écrit, je cite, « Le rugissement du canon continue de se faire sentir avec une insistance croissante jour et nuit. Je continue cependant à jouer avec mes compagnons la journée. » Donc les bombardements, pas plus d'ailleurs que l'internement dans des ghettos et des camps, ne semblent empêcher les enfants de s'amuser. Dans un article sur les jeux de guerre sous le régime nazi, l'historien Nicolas Stargardt constate ainsi que, et là vous avez un document très important parce que c'est une photographie qui a été prise dans le ghetto juif de Vilnius, les enfants ici en l'occurrence jouent à la Gestapo. Dans le même temps, il observe qu'à Birkenau, dans le bloc réservé aux enfants, ces derniers jouent, je cite, aux vétérans du camp et aux vétérans du bloc, à l'appel. Ils jouaient aux malades qui étaient battus lorsqu'ils s'évanouissaient pendant l'appel. Et certains ont même joué à la chambre à gaz représentée par un trou creusé devant leur bloc. Donc, face à ce constat, la première impression est de l'idée que jouer ne semble avoir aucune limite, même en contexte de violences extrêmes. Mais pourtant, y regarder de plus près, dans ces deux cas notamment, des limites qu'on pourrait grossièrement, alors je ne savais pas trop comment les appeler, mais psychiques apparaît plus pertinent que psychologique, des limites existent, puisque dans le cas de Francesco Matteini, il y a un détail à mentionner, puisque s'il entend distinctement et parfois non sans peur les bombardements toutes les nuits, qu'il descend à la cave pour s'abriter, en fait, à aucun moment, son espace du quotidien n'est directement touché. Son école n'est pas détruite, sa maison n'est pas détruite, même si les quartiers aux alentours, le quartier voisin, a été détruit. Et donc finalement, ce qu'on peut rappeler, c'est qu'un enfant va continuer à jouer, y compris dans des cas de violence extrême, tant que son espace proche, son espace du quotidien, n'a pas été directement détruit. L'inspectrice de Marseille l'observait également, puisque lorsqu'un avion passe au-dessus de l'école, la plupart des enfants se presse, elle écrit, je cite, se mettent à hurler, à s'agiter, à le viser avec un fusil fictif. À l'inverse, les réfugiés du nord de la France qui ont vécu l'exode et qui ont été bombardés, qui ont souvent été orphelins, enfin en tout cas pour ceux qui sont dans l'école, eux se mettent à hurler, à pleurer et ne jouent jamais avec leurs camarades à la guerre. C'est ce qu'on observe enfin pour les enfants juifs, puisque s'ils jouaient bien à la chambre à gaz, c'est le seul cas en fait où ils n'incarnaient pas les protagonistes, contrairement au jeu de l'appel par exemple. Puisque personne ne jouait le jeu de ceux qui étaient envoyés dans les chambres, y compris les plus jeunes qui ont souvent joué des rôles désavantageux, parfois contraints, dans lesquels ils avaient pu être punis ou battus. Et dans le cas des chambres à gaz, les enfants sont remplacés en fait par des petits cailloux que l'on jette dans le trou qui a été creusé. Et c'est ce que conclut Nicolas Stargardt, qui explique « Les enfants ne pouvaient pas incarner les personnes gazées, comme dans le cas des viols, cela aurait été psychologiquement autodestructeur. » Et donc en fait, pour comprendre aussi les jeux en temps de guerre, il est important de distinguer la guerre indirectement vécue et la guerre directement vécue, avec qui implique une proximité de la mort, une mise en danger directe des enfants, que les enfants sont à même de percevoir et qu'ils comprennent très bien. Puisque dans le cas notamment de la chambre à gaz, c'est leur intégrité physique et également psychique qui est touchée, et donc à ce moment-là, le jeu s'arrête. On a également des limites physiques, puisque pendant et surtout juste après la guerre, les ruines urbaines comme les bunkers ont été souvent investies. Je vous ai mis ici deux photos qui ont été prises en Normandie avec une fillette qui joue dans un bunker. Alors j'arrive pas, je ne sais pas si vous voyez bien sur la deuxième photo, vous avez un enfant en noir et un enfant en blanc qui sont en train de jouer dans les ruines à Caen, juste à côté du château. Et donc les enfants ont souvent joué dans les ruines, c'est un terrain de jeu favori. Et ils ont également souvent récupéré et fait exploser des grenades, vidé la poudre des douves qui était laissée par les armées alliées, mais également allemandes. Et ces explorations, dans certaines régions françaises notamment, la Normandie en particulier, de manière massive en Italie, ces excursions ont donné lieu à de nombreux accidents. Pour rester sur l'exemple de la Normandie, entre 1944 et 1945, la presse calvadosienne relate plus d'une centaine d'enfants morts et ou mutilés lors d'explosions de munitions et de grenades. Grenades abandonnées, munitions abandonnées, et c'est dans le cadre d'un jeu qu'ils sont blessés ou tués. Des campagnes sont d'ailleurs lancées pour demander aux mairies, aux parents, aux enseignants de ne pas laisser les enfants jouer avec des objets abandonnés. Cela n'empêche pas évidemment de nombreux drames d'arriver, et il faut insister sur le fait que l'Italie est incontestablement l'un des pays européens le plus touché, qui a le plus souffert, à tel point d'ailleurs qu'il existe un mot depuis 1944 pour mentionner, pour nommer ces enfants mutilés, donc on les appelle les mutilatini, les petits mutilés, et il s'agit en fait de ces enfants qui ont été accueillis notamment dans de nombreux centres de rééducation, où ils sont soignés, scolarisés. Enfin, il s'agit plutôt de dizaines de milliers d'enfants qui, de fait, ont cessé de jouer à la guerre. Et pourtant, même si ce danger physique est un danger important, ce n'est pas celui qui effraie le plus les experts au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et ce sera mon dernier point, notamment. Je vais passer un petit, quelques minutes dessus. En fait, du point de vue, donc là, c'est ce dernier danger, hein, cette dernière limite, c'est, contrairement aux deux autres, une limite perçue par les adultes, mais qui n'est pas du tout perçue par les enfants. C'est l'idée que le jeu de guerre est avant tout un jeu dangereux, moralement parlant. Alors, pour remettre en contexte, pour ceux qui ne seraient pas spécialistes de la période, au lendemain du conflit, l'Europe est en ruine, elle est dévastée, elle est endeuillée, et elle prend la mesure des conséquences de la violence de guerre en faisant un bilan matériel humain et en découvrant notamment l'expérience des camps de la mort. Et face à ce constat, il y a une crainte commune qui agite les experts de l'enfance, qu'ils soient pédagogues, pédiatres, éducateurs, celle d'un effondrement moral de l'enfance européenne. Puisque pour une majorité de ces experts, à l'échelle mondiale, la violence de guerre aurait entraîné une démoralisation de l'enfance. Il est nécessaire de la rééduquer, de la remoraliser. Au cœur de cet objectif, les jeux et les jouets de guerre attirent particulièrement l'attention des experts, puisque selon eux, ils auraient un impact moral néfaste sur les enfants. Ils les rendraient violents, délinquants et eux-mêmes belliqueux. Alors pour citer un journaliste italien, Leonida Villani, en 1946, il dénonce, je cite, « Ils déséduquent les enfants, les habituent et les préparent à la violence, ils excitent les âmes, suscitent des instincts d'agressivité, assoupissent les sentiments de solidarité et de fraternité humaine. » Il y a un journaliste allemand du Frankfurter Rundschau qui va même plus loin, puisque dans un article du 17 octobre 1945, il explique que l'existence de jouets et de jeux de guerre est, je cite, « la source de tous les maux de l'Allemagne ». Dans ce même article, il demande aux autorités de réagir pour interdire les jouets de guerre, sans quoi, selon lui, une nouvelle guerre va surgir dans les années à venir. Et c'est ainsi qu'une grande campagne de désarmement du jeu est mise en place à l'échelle européenne à travers des ONG, des associations, principalement féminines d'ailleurs, hein, comme l'Associazione Internazionale Madri Unite per la Pace, des Mères Unies pour la Paix, créée en 1946 par Maria Remidi. Évidemment, de telles campagnes ne sont pas nouvelles. Là, vous avez une affiche des années 30, diffusée par la Ligue internationale des combattants de la paix. Ces campagnes ne sont pas nouvelles, mais en 1945, elles prennent une ampleur nouvelle, puisqu'elle donne lieu à de nombreux débats internationaux. Par exemple, lors du congrès féminin de Paris en 1947, qui réunit les représentants de 52 pays. Et également, elles aboutissent, donc toutes ces discussions, à des propositions de loi pour interdire à la fois la fabrication, l'importation, l'exportation et la vente de jouets à caractère belliqueux. En 51 en RFA, en 52 en Italie et en 1955 en France. Et pourtant, aucune étude n'a prouvé dans les années 40 et 50 que les jouets et les jeux rendaient les enfants violents ou délinquants. L'accroissement de la délinquance qui a si souvent été décrié à ce moment-là, en fait, a beaucoup plus concerné les adolescents que les enfants d'âge scolaire et elle relevait en fait surtout du vol de nourriture dans un contexte de pénurie extrême. Aucune étude historique d'ailleurs n'a à ce jour non plus montré qu'il y a eu une explosion de la violence chez les enfants qui ont grandi pendant la guerre et joué à la guerre. Et ces campagnes ont d'ailleurs été en partie un échec car si des jouets, de tels jouets ont été interdits à la vente à Munich en 1945, aucune des propositions de loi n'ont abouti en France. Les fabricants de jouets ont continué à adapter leur production en lien avec l'actualité récente, à savoir la libération et la présence de soldats alliés sur le vieux continent. Alors, qu'en conclure brièvement, trois points. Tout d'abord, l'actualisation des pratiques ludiques, la pénétration réelle jusqu'à un degré parfois surprenant de la violence de guerre dans les jeux témoigne, s'il fallait encore chercher à s'en convaincre, que les enfants ont été des acteurs à part entière du conflit. Et d'ailleurs, l'étude des pratiques ludiques est en ce sens précieuse pour les historiens, puisqu'elle permet de saisir le quotidien et l'ensemble des expériences que les enfants ont fait d'un conflit. Force est de constater que la violence n'a pas nécessairement effrayé les plus jeunes qui s'en inspirent et qui comprennent parfaitement les logiques. En témoignent les différents rôles qu'ils ont joués pendant la guerre. Notre étude a montré qu'il existait effectivement des limites, mais que si l'on peut jouer à tout en contexte violent, on ne peut pas incarner et endosser le rôle de n'importe qui. Le jeu révèle ainsi quand les plus jeunes sont et se sentent en danger et quand leur intégrité est menacée. Et donc à ce titre, leur perception du danger diffère de celle des adultes et pour moi, il est important de les distinguer puisqu'ils sont loin de s'alarmer du danger moral qu'ils sont supposés courir et qui est pourtant massivement décrié par les experts de l'enfance au sortir de la guerre. La question serait peut-être pas tant puisque je n'aurai pas de réponse à savoir si c'est un mythe ou une réalité, est-ce que les jeux de guerre ont rendu les enfants plus violents? Mais ce qui est clair, c'est que la Seconde Guerre mondiale a représenté un moment de bascule et un moment de passage où le seuil de tolérance de la violence a été abaissé vis-à-vis de la population enfantine. Puisque si la psychologie enfantine qui s'est développée après la Première Guerre mondiale et l'expérience de la Première Guerre mondiale avait tissé un lien négatif entre jeux de guerre et violence enfantine, c'est bien la Seconde Guerre mondiale qui a fait surgir le débat dans l'espace public et à l'échelle internationale. Et en ce sens, elle constitue un moment charnière dans l'histoire des liens entre violence et jeux à l'époque contemporaine. Je vous remercie.